beau aujourd'hui, hein. Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, y'a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Les papiers, les pas imprimés, là.
Les jours.
Ce gaz qui marche pas.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce vivement ce soir qu'on se couche du mercredi 14 mars 2012. Moi, je sais pas vous, mais ce soir, je coucherai bien dans yourte sous les bois avec les loups. Bonjour à Chloé et à Jean à la technique. Aujourd'hui, nous aurons une chemise à rayures spéciale sur l'habitat léger. Nos deux invités du jour sont Pascal Lombard, militant local et membre d'un groupe de travail sur ces questions. Bonjour Pascal.
Bonjour Elsa.
Et Raphaël Jourjon, salarié de l'association Relier et chargé de la mission Habitat. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Puis comme tous les mercredis, notre chronique du jour sera 3A246, la chronique de la Maison de la Mémoire. Florian Boulet nous parlera d'anciennes correspondances et de lettres de soldats. On commence tout de suite avec une surprise, puisqu'il s'agit d'une chanson que notre cher stagiaire Jean a réalisée avec un ami à lui. Une nuit de dérive et d'ivresse vers 4h du matin, ça donne ça.
That's the end of the story. He's a man so pretty. He live in Missouri with his dear mama Betty. He wanna go, go every time he go. He decide to buy a pistol for brother and his mom. So he doesn't know that he will need to be the king. Is long with no one to conquer the new world. He need fight a goal, every time a goal. To break his word, he travels the globe. The road, every time the road, time is cold with no one. Stop, hit stop, in a town full of hope. Gold digger person, they prefer to be alone. Everybody alone. He was dead, no hole without knowing why. Until fated brought him far in the dark with nothing to his heart.
Du mat et quelques bouteilles, ça aide, hein, Jean. Donc ça, c'est The Road de Jean à la guitare folk et René Mojo aux paroles et sifflements. Et je trouve que ton pote, Jean, il a la même voix que Johnny Cash. Un peu grave, elle est belle. Vous trouvez pas?
Qui est Johnny Cash?
Johnny Cash, tu connais pas?
Je blague.
Et June Carter. Bon, enfin, place à la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Actuellement, en France, la crise du logement sévit. Beaucoup de gens se retrouvent en grande difficulté. Et dès qu'on sort des sentiers battus en termes d'habitat, les choses se compliquent. Les habitants d'habitats dits alternatifs, souvent légers, mobiles et démontables, tels que les yourtes, les cabanes, les tipis et les roulottes, se retrouvent très souvent en procès. Pourtant, ils sont des centaines de milliers à se diriger vers ce type d'habitat, et ce, pour de multiples raisons. C'est ce que nous allons voir dans cette chemise à rayures. Pascal Lombard, tu es militant local et fais partie du groupe de travail d'ALEM et relié sur les questions de l'habitat léger. Est-ce que tu peux nous présenter ALEM en quelques mots?
Bien, ALEM, c'est une association qui s'inscrit en fait au niveau national sur les questions de l'habitat léger, éphémère et mobile. Donc c'est une association qui, on va dire en quelques mots, travaille sur une veille juridique sur toutes les questions de lois et autres qui on va dire concernent les habitats légers, éphémères et mobiles. C'est une association qui travaille donc sur la défense, en tout cas une réflexion sur ces habitats. C'est une association qui aussi se mobilise pour la défense, on va dire, du droit d'habiter, du droit au logement. Voilà, c'est un petit peu une association qui, comme le droit au logement, en fait, milite pour un droit au logement pour tous et sur ce type d'habitat-là, qui sont les yourtes, les tipis, les roulottes, mobilhomes et autres habitats insolites.
Donc il y a ALEM, il y a d'autres associations, il y a Permis de Vivre, bon, il y a le DAL, il y a quoi d'autre qui existe dans... Un peu similaire à ALEM, par exemple, il y en a d'autres
ou... Alors, similaire à ALEM, peut-être Raphaël, toi qui as abordé pas mal de ces questions-là, je ne sais pas si tu as d'autres structures. Je sais que moi, personnellement, je connais beaucoup plus ALEM, le droit au logement. Effectivement, il y a Permis de Vivre, il y a des associations locales.
Oui, en Cévennes, notamment.
Sur le Massif Central, il y a beaucoup d'associations locales qui travaillent. Il y en a un bon nombre. Après, voilà, sur le site internet d'ALEM, on peut retrouver toutes les structures qui travaillent sur ces questions-là.
Ok. Et toi, Raphaël Jourjon, tu es salarié de l'association Relire, donc on est beaucoup à la connaître à Saint-Afrique, mais d'autres pas. Donc, et tu es aussi chargé de la mission Habitat Léger, justement. Pour commencer, présente-nous un peu l'association Relire.
Alors, l'association Relier, donc, c'est un réseau qui a été créé au milieu des années 80 et qui a pour but de soutenir toutes les initiatives, qu'elles soient sociales, culturelles ou économiques, de vie et d'activité à la campagne. Donc, ça n'a pas toujours été l'habitat le sujet principal d'action de l'association, mais depuis 5, voire 6 ans maintenant, c'est devenu un des enjeux majeurs et une des parties qui occupe le plus la structure. Parce qu'il y a eu un gros travail fait sur l'accès aux fonciers agricoles qui a donné naissance à une association et un mouvement autonome, Terre de Liens. Et à la suite de ça, ça semblait assez logique de s'intéresser et de se pencher sur les questions d'accès à l'habitat en général. Donc là, aujourd'hui, on est 3,5 salariés, dont on va dire 2,5 équivalents temps plein qui sont vraiment à fond sur ces questions d'habitat. Mais on reste toujours ouvert aussi à d'autres thématiques, la question de la forêt, la culture en milieu rural. Et donc, le principe de l'association, c'est d'essayer de rassembler des gens de divers horizons pour traiter de manière collective des questions qui se posent pour les gens qui veulent développer des choses à la campagne.
C'est national ?
Le réseau est national. Là, il se trouve qu'on a nos bureaux à Saint-Afrique en ce moment, mais il y a des personnes mobilisées un peu partout en France. Et ça ne fonctionne que parce qu'il y a des gens qui se mobilisent un peu partout.
Donc pour commencer, tu veux rajouter
Oui, juste par rapport à ALEM, je viens juste de réaliser ça. Également, ALEM travaille avec beaucoup d'associations, des gens du voyage. Notamment, je crois que c'est l'association Goutte d'eau. Qui est sur Toulouse. Au niveau Midi-Pyrénées, en fait, on travaille avec cette association-là sur toutes ces questions, puisque effectivement, l'habitat léger concerne surtout, je ne sais pas, en tout cas aussi les gens du voyage, même peut-être avant tout le monde, puisque ça fait très longtemps que les gens du voyage, on va dire, vivent cette question de la mobilité et du frein à cette mobilité-là par des lois qui, depuis les années 1900, sont promulgués au niveau national et qui, voilà, on va dire la mobilité est de plus en plus freinée. Voilà. Donc il y a aussi les gens du voyage, il ne faut, faut surtout pas les oublier parce que c'est, on va le voir peut-être plus tard, c'est grâce à eux qu'on avance aujourd'hui sur de la jurisprudence et sur la possibilité d'occuper des lieux de manière légale avec de l'habitat léger. Voilà.
Donc du coup justement on va venir là-dessus, bah, y a des personnes qui choisissent leur habitat, enfin de vivre par exemple, de s'installer à la campagne, ils ont un terrain donc ils veulent vivre en yourte, en famille, mais il y a aussi des gens, c'est un non-choix entre guillemets, enfin, quelles personnes sont concernées par les types d'habitats comme ça, insolites ou...
Déjà, avant de parler de type de personne, effectivement, l'habitat léger est une alternative au fait de pouvoir avoir un toit sur la tête. Il y a certaines personnes qui font le choix concrètement de vivre dans ce type d'habitat. On va dire que ça répond à une mode de retour à la terre, de proximité avec la nature, avec les éléments. Il y a des témoignages concrets là-dessus. Il y a des fois où le choix il est relatif, c'est-à-dire que la personne n'a pas les moyens de pouvoir accéder à un logement et de pouvoir payer un loyer tous les mois. Donc elle fait le choix effectivement d'aller dans l'habitat léger, mais certainement que des personnes qui font ce choix relatif, si elles avaient la possibilité de retrouver un habitat, un logement social ou autre, feraient le choix de partir de ce type d'habitat léger. Et puis il y a aussi, on va dire, un choix qui est subi concrètement. J'entends par là les bidonvilles autour des villes, j'entends par là les squats, même en milieu rural aussi, qui existent, où là on est vraiment sur des populations qui sont dans une réelle précarité et qui n'ont pas d'autre solution. Mais voilà, sur la question du logement, en fait, puisque l'habitat léger est une alternative au logement. La Fondation Abbé Pierre précise qu'en France, on a 3 600 000 personnes qui sont mal logées, notamment sur les questions de l'accès à la propriété individuelle. Voilà, cet accès à la propriété individuelle, en fait, a créé un réel déséquilibre sur l'orientation des politiques d'aménagement. Puisque j'entendais encore ce matin sur France Inter, je ne sais pas si on peut nommer les radios.
C'est pas
concurrent, de toute façon, France Inter de Radio Centrafrique, c'est pas pareil.
Pas du tout. En plus, ils nous recopient au niveau musique, par exemple.
Voilà. J'entendais ce matin, par exemple, que au niveau donc, national, la question du logement s'inscrivait de plus en plus sur la campagne, toute la réflexion autour de la campagne présidentielle, là. Ils disaient qu'il y avait un problème de logement. Et puis, ils ont pris l'exemple de Rodez. Donc, Rodez, où 2500 logements, je crois, ont été construits. Des logements qui ne sont pas des logements sociaux. Ce sont des investissements privés de propriétaires qui ont, ces dernières années, eu accès à la propriété par rapport à la politique du président actuel. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se retrouvent à ne pas pouvoir louer leur logement. Parce qu'ils ont investi de manière importante sur des coûts de production qui sont chers et du coup, ils ne peuvent pas faire des loyers...
À prix plus bas, quoi.
Plus bas. Et puis, presque, le témoignage à la radio ce matin, c'était de dire on aimerait bien pouvoir faire des loyers plus chers pour pouvoir se rembourser. Et plein de logements, du coup, sont vacants. Et il faut savoir que Rodez, aujourd'hui, n'a pas du tout atteint la norme que impose la loi de solidarité et de renouvellement urbain, donc de 20% de logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants. Aujourd'hui, Rodez a 70% de personnes légitimes pour avoir accès à ce type de logement, et il manque 1100 habitations en logements sociaux sur Rodez.
Donc,
on est effectivement dans un antagonisme entre l'accès à la propriété d'un côté, alors des gens qui peuvent investir, qu'on facilite donc l'accès à la propriété, qui créent des habitats, ayant souvent eux-mêmes un habitat et ne permettant pas à cet habitat d'être occupé. Donc on a une vacance en France qui est importante. Je crois que c'est combien, 2 millions d'habitations vacantes en France, entre maisons secondaires, propriétés, même en ville, qui n'arrivent pas à être louées, etc. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, cette loi SRU sur les 20% donc de logements sociaux concerne les villes de plus de 3500 habitants. Donc c'est-à-dire qu'en milieu rural, il y a plein de petits villages et de petites villes qui ne vont pas du tout répondre à cette question-là et pourtant qui sont sollicités par des demandes de logements sociaux. Voilà. Donc ça c'est un deuxième point aussi qu'il faut noter. Voilà à peu près le contexte, quoi. J'essaie d'être synthétique. Il n'empêche que l'habitat léger, pour répondre à ta question, Elsa, si c'est un choix ou si c'est quelque chose de subi, en tout cas, c'est quelque chose qui permet aux gens de s'installer sur un lieu, qui permet aux gens de vivre un instant de test. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur... on est sur la notion d'installation progressive. Beaucoup de gens vont, par choix ou pas par choix, arriver à vivre dans ce type d'habitat. Et on est sur quelque chose de... Une sorte de passerelle, une sorte de transition, quoi. Voilà, il y a des gens qui vivent depuis 20 ans en yourte, c'est pas le problème. Il y a des gens qui ont vécu quelques années en yourte, ou en tipi ou autre, et puis ensuite qui rebondissent vers d'autres types d'habitats. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des discussions, cette notion d'installation progressive, de transition. Moi, personnellement, c'est ça que je m'accorde à résumer au niveau de pourquoi et comment des gens vivent dans ce type d'habitat. Ensuite, quand on commence à rentrer dans les détails, tout devient très compliqué, puisque en fonction des cas, on a des vérités différentes, quoi. Voilà.
Donc ça, c'est valable, par exemple, pour ceux qui s'installent en agricole ou sur un projet lié à la terre. Mais si l'habitat léger, c'est une alternative à la crise du logement, tous ceux qui sont en squat, comme tu l'as dit, bidonville, quelle amélioration il pourrait y avoir dans les années à venir, du coup ? C'est plus une notion de passerelle, tellement.
C'est-à-dire que l'habitat léger est une alternative à la crise du logement. Je ne sais pas si c'est une alternative en tant que résultat positif ou si demain tous les mal logés vivent en habitat léger. Je ne sais pas non plus si c'est positif. Il faut en avoir envie de vivre en habitat léger. Effectivement, la crise du logement, elle est claire. Elle s'inscrit au niveau, chaque année, quand les étudiants arrivent aux universités pour trouver un appartement. Ça commence là. Aux personnes âgées qui n'ont pas une retraite suffisante pour pouvoir payer leur loyer. Les personnes qui sont dans une précarité et aussi dans une marginalité, qui du coup se retrouvent à aller dans des squats, etc. Et qui ne sont plus accompagnées, qui sont stigmatisées. Donc on est effectivement sur un lien entre habitat léger et pauvreté. Ça, c'est évident. Je ne sais pas si les politiques actuelles voient l'habitat léger comme une réponse à la crise du logement. Les politiques actuelles que l'on a vues s'organiser ces dernières années, c'est plutôt de mettre à l'extérieur des villes la pauvreté, les squats, c'est de mettre à l'extérieur des milieux ruraux touristiques, puisque la France est un pays touristique et le milieu rural aujourd'hui est un espace de loisirs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les choses sont organisées, même au niveau aménagement du territoire, concrètement. Donc, cette gentrification, c'est-à-dire de mettre à l'extérieur des lieux bourgeois, entre guillemets, la pauvreté, donc de vider le centre-ville d'habitats sociaux et autres, et d'y implanter des habitats à loyer cher, etc., ou sur des parcs naturels régionaux, de vouloir décabaniser, comme ça se fait en Ariège, pour pouvoir laisser le paysage dit naturel... au regard des touristes, etc. Enfin, ça, c'est la réalité aujourd'hui. La loi LOPCI, qui a avorté sur son article lié au logement, a été prononcée. Il y a quand même des gens qui ont écrit cette loi et qui l'ont votée. Et ce sont des gens puissants qui gouvernent aujourd'hui notre pays. Et c'est ça qui aujourd'hui fait peur à tous les habitants qui sont dans cette précarité ou qui sont dans ce type d'habitat par choix. C'est ces questions-là aujourd'hui. Donc, la crise du logement, elle existe. Ce qui existe à côté de la crise du logement, c'est la volonté des puissants de mettre la pauvreté dehors, ou en tout cas de la pousser toujours plus loin. Et c'est là-dessus aujourd'hui que Alem combat avec le droit au logement, avec le syndicat de la magistrature, etc., combat ces faits-là. Et ensuite, c'est le travail qui est réalisé, ça va être de... On va dire d'être proche des élus des territoires,
locaux, ouais.
Voilà, des élus locaux, pour que quand il y a un élu qui est prêt, avec son conseil municipal, de voter de manière positive l'accueil de nouveaux arrivants sur ce type d'habitat, eh bien que ça fasse jurisprudence et d'avancer sur ces questions-là pour, on va dire, que l'expulsion ne soit plus la règle, quoi. Voilà. Mmh. On ne dit pas que tout est parfait dans le monde de l'habitat léger, on ne dit pas que c'est quelque chose qui est... positif en tout sens, mais en tout cas, l'expulsion n'en est pas la solution, quoi. Ça, c'est clair. Parce que le droit au logement est un droit fondamental.
Après, ça serait bien de se demander comment ça va se transformer, puisque c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si d'un côté, les politiques, les gouvernements ne veulent pas que les gens... Enfin, si les gens n'ont plus accès au logement en ville, il n'y a plus logement assez de sociaux, donc ils n'ont plus accès. Donc on les met dehors, comme tu dis, comme en Afrique, dans des bidonvilles ou planqués dans la forêt. Et d'un côté, après, on leur fout des procès. On les empêche ou on les expulse parce que c'est illégal. Mais en fait, quelle solution serait envisageable du coup ?
Ben, alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la yourte, par exemple, est considérée comme une tente. La yourte n'a pas de statut juridique clair sur son orientation en matière d'habitat et de logement permanent. Donc la yourte fait partie des habitations légères de loisirs. Et elle est donc régie par le référentiel juridique de ce type d'habitation légère et de loisirs. Donc par exemple, une yourte, a priori, doit s'implanter sur ce type de zones-là, qui sont décidées en conseil municipal et ensuite avec la préfecture, et donc doit être occupée pas plus de 3 mois à l'année, et doit être vidée, etc. A priori, ne doit pas être équipée de sanitaires et autres, parce que là, on change donc du coup de consistance, on rentre dans ce que l'on appelle le droit commun autour de l'habitat. Donc le droit commun autour de l'habitat, ça veut dire qu'on peut, pour construire un habitat entre 2 et 20 mètres carrés, de faire une demande préalable auprès de la commune. Quand ça dépasse 20 mètres carrés, c'est permis de construire. Or, un permis de construire pour une yourte, c'est pas possible. Une yourte est considérée comme une tente. Enfin voilà, il y a, on va dire, une sorte de vide juridique, de flou là-dessus. La loi LOPCI a tenté du coup de répondre à ce flou en disant c'est fini tout ça, on expulse sous 48 heures. Enfin, la loi LOPCI, j'invite les gens qui nous écoutent à se renseigner sur cette loi pour qu'ils voient.
La loi LOPCI 2, celle-là.
LOPCI 2, bon, enfin LOPCI 1, LOPCI 2, bon, c'est la même personne qui l'a faite, hein, c'est M. Sarkozy. Concrètement, comme il y a ce vide juridique-là, ça laisse la porte ouverte derrière à faire ce que l'on veut. Ça laisse le législateur complètement libre d'orienter vers tel ou tel endroit, positif ou négatif, éthique ou pas éthique, les habitats légers, quoi. Voilà. Donc, c'est évident qu'on est à un moment donné contraint, enfin obligé, de connaître les textes de loi, de les interpréter, Et d'avancer sur le droit au logement et du coup les alternatives que sont aujourd'hui les habitats légers et mobiles. On pourrait parler très longtemps de tous ces cadres juridiques qui finalement, à force de les lire, moi je suis en train de me former sur ces questions-là. Voilà, au final, c'est juste du temps à les lire, etc., à les comprendre, à échanger avec d'autres qui les comprennent pour pouvoir s'auto-défendre. Voilà.
Ouais.
C'est quelque chose aujourd'hui de connaître la loi, de pouvoir l'interpréter et de pouvoir se défendre. C'est pour ceux qui sont dans des alternatives autour notamment de l'habitat, c'est un passage pour moi obligatoire.
Obligé, ça devient primordial.
Ou en tout cas, en tout cas d'avoir un réseau qui puisse aider, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais.
Et justement, donc c'est une petite anecdote, il se passe quelque chose de drôle dans nos campagnes. Dans le Midi Libre de la semaine dernière, donc du mardi 6 mars, vous pouvez trouver un petit article sur les cabanes et roulottes qui sont produits insolites de l'Aveyron. Et ils ont été labellisés Gîtes de France. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait un camping un peu bobo, ça coûte souvent très très cher. C'est à peu près 200 000 euros, voire plus selon les budgets. Les gens, ils investissent, ils font des jolies cabanes et les gens, ils viennent payer cher la nuit insolite. Alors qu'à côté, souvent dans les mêmes communes, les gens n'arrivent pas à s'installer en yourte sur leur terrain alors qu'ils sont maraîchers ou etc. Est-ce que c'est pas un petit peu...
Il y a un effet de mode, oui.
Ouais, on peut parler de paradoxe. D'un côté, on va soutenir des formes un petit peu atypiques d'habitat dans le domaine du loisir pour proposer de nouveaux produits aux gens. Et puis les questions fondamentales d'accès au logement, alors que ça soit après un logement atypique ou un appartement en dur, ne sont pas satisfaites. Donc effectivement, il faut insister sur le fait qu'il y a un déficit de logements sociaux, que ça soit en ville ou à la campagne, parce qu'effectivement, il y a très peu de lois contraignantes à la campagne. Ça ne veut pas dire que la situation est satisfaisante en ville, mais il faut le dire et le redire. Et puis à côté de ça, on refuse d'étudier aussi des alternatives ou de consacrer des moyens à développer d'autres formes de logement. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on a envie d'aborder et de poser la question de l'habitat léger et mobile en la prenant plus globalement dans le contexte général du logement. Et qu'on invite toutes les personnes qui se sentent concernées, qu'ils soient simples habitants, élus, chercheurs, techniciens, à venir discuter dans les rencontres qu'on organise avec Relier. Et donc, que jeudi prochain, le 22 mars, Relier et ID co-organisent cette journée pour vous inviter à venir en débattre et que chacun puisse un peu donner son avis là-dessus. Voilà, sans être ni dans la défense absolue de l'habitat léger pour l'habitat léger, ni dans la caricature en disant que la vie allégée serait forcément insalubre. Voilà.
Non, mais en fait, c'est bien parce qu'au niveau médiatique, il y a une grande carence. Par exemple, France Inter, quand ils font carnet de campagne ou des émissions sur les installations, on n'entend jamais ce genre de problème ou de difficulté. Donc, c'est bien d'en parler. Et vous, reliez donc jeudi 22 mars prochain, qu'est-ce que c'est le programme de la journée ?
Alors, le matin, on a demandé à plusieurs personnes de nous apporter un petit éclairage pour pouvoir débattre ensuite. Alors, d'une part, sur quelles sont les conditions et les réalités de vie des gens du voyage. Donc, on a une personne qui s'appelle Gaëlle Aloiseau et qui est médiatrice avec les gens du voyage, qui viendra nous parler de son travail et du regard qui est porté sur l'habitat mobile. On a aussi invité quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec les travelers, les gens qui vivent en camion en Angleterre et en Belgique, qui s'appelle Marcello Frediani, et donc là qui a même écrit un bouquin dessus, mais qui est vraiment issu sur un travail de terrain passé avec ces personnes-là. Et on va dire que ça, c'est plutôt deux regards de chercheurs et de professionnels qui connaissent bien le sujet. Et à côté de ça, il nous semblait important que les personnes directement concernées en tant que pratiquantes, habitantes de ces espaces et de ces habitats-là soient présentes. Donc on a des gens qui vivent sur des lieux d'accueil temporaire, des habitants en camion, roulotte, qui seront présents pour échanger,
témoigner,
rebondir.
Témoigner, échanger, ouais.
Voilà.
Donc le matin, il y aura une plénière.
Donc ça, tout ça, c'est en plénière le matin. Et puis l'après-midi, en fait, on se répartit sur différents ateliers, en plus petits groupes, pour creuser et approfondir les sujets évoqués. Il y a un groupe qui est plus autour des questions sociales, motivation et vécu en habitat léger. On va dire qu'il serait plus destiné aux habitants ou aux personnes qui veulent mieux connaître les conditions de vie. Et puis deux autres ateliers, un qui est sur les questions d'accueil, lien au territoire entre ces installations-là et les gens qui sont déjà présents. Et un autre atelier plutôt sur les questions d'impact, négatif ou positif sur l'environnement, rapport à l'espace de ces habitats-là. Et à la fin, une forme de restitution participative que je ne dévoile pas pour le moment pour garder un peu de
suspense.
Voilà.
Et en fait, il faut s'inscrire donc où et comment ?
Alors, pour s'inscrire, et il faut le faire assez vite si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler à l'association Reliée. Donc au 05 65 49 58 67 et en fait c'est préférable de s'inscrire simplement pour qu'on prévoie un peu le nombre de personnes, sachant que c'est jeudi prochain. Là, vu qu'on est localement, je pense que la salle du Quai-Lu, c'est peut-être pas forcément connu, mais le rendez-vous est donné là à partir de 9h, donc jeudi prochain. Donc c'est la salle qui est juste au-dessus du carrefour de la route de Rodez, en remontant dans cette direction.
Et le lendemain, le vendredi, il y a une petite journée supplémentaire pour ceux qui veulent. C'est sur quel thème ?
Alors là, c'est une journée plus de formation et co-formation sur les droits des habitants en logement non conventionnel, qui est organisée par l'association ID, et où Clément David, qui est militant investi depuis longtemps à la fois à l'EM, dans la Fédération Droit au Logement, sera là un peu pour échanger avec les personnes concernées en s'appuyant sur les cas concrets, les situations rencontrées par les personnes.
D'accord.
Voilà.
Oui ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Pascal ?
Non, moi j'invite vraiment les gens à venir dans ces manifestations, à se rapprocher des structures qui militent sur la réflexion de cet habitat, parce qu'il y a des choses qui évoluent, parce qu'il y a des choses qui avancent, parce qu'aujourd'hui il y a parce que c'est, je pense, important de comprendre le droit, parce que la jurisprudence, c'est quelque chose qui fait avancer. Par exemple, il y a encore quelques mois, on n'avait pas vraiment de solution pour pouvoir répondre à quelqu'un qui avait envie de s'implanter sur un habitat léger en matière de statut du lieu où il voudrait s'installer. Et voilà, les gens du voyage ont fait avancer, je crois que c'est sur Perpignan, il me semble, au tribunal de Perpignan, et également une autre jurisprudence sur Clermont-Ferrand, sur les terrains familiaux, par exemple. Voilà, les terrains familiaux, alors voilà, c'est un terme juridique, c'est un outil, en gros, c'est un propriétaire ou une ville qui est propriétaire de foncier peut faire basculer un lieu qui soit constructible ou non constructible, en terrain familial, bien entendu en le viabilisant en matière d'électricité et d'eau, et en légitimant l'installation d'habitats légers, caravanes, etc. Bon, tout ça, toutes ces avancées-là, c'est un travail de fond des associations des gens du voyage, des associations militantes, notamment du droit au logement, ALEM, etc. Et ce travail de fond, c'est un travail de fourmi qui avance tout doucement. Alors les choses ne vont pas se régler d'un seul coup, mais c'est quand le citoyen s'appropriera ces textes de loi qu'il pourra lui-même les faire valoir avec sa propre interprétation, et que cette interprétation-là sera mise en débat dans ce type de débat collectif et citoyen que propose Relier ID le 22 mars, qu'on pourra tout doucement, on va dire, déstabiliser Goliath, voilà, pour faire court.
C'est ça, et espérer que l'avenir sera plus local et que ça se décidera aussi avec les élus des communes et qu'il y aura des mouvements un peu plus comme ça, on verra. Bon, en tout cas, donc rendez-vous tous jeudi prochain. N'oubliez pas de réserver, enfin de vous inscrire à Relier, sachant qu'il y a déjà beaucoup de monde, donc peut-être plus beaucoup de place. Donc allez-y. Et merci Pascal et Raphaël.
Merci à toi. Merci à Radio Saint-Afrique.
Merci. Allez, reggae avec un CD de la semaine.
So nice.
Soul Nurse de Rod Anton et The Ligerian, CD de la semaine. Il est temps de retrouver 3246, la chronique du mercredi.
À 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de soldats et de lettres de soldats. Parce qu'un peu par hasard, on est tombé sur un dossier qui contient la correspondance d'une famille de Sainte-Afrique, dont un des fils a fait son service militaire dans les années 1860, et qui avait la chance de savoir écrire, et qui donc du coup nous a laissé pas mal de traces sur à la fois la vie militaire et puis les préoccupations aussi qu'un jeune homme de la campagne pouvait avoir lorsqu'il partait en service militaire. En l'occurrence, là c'était... à Toulouse qu'il était basé. Donc déjà, l'orthographe, il faut voir les lettres, c'est assez amusant, parce que c'est à la fois très oral, très un peu occitan, donc c'est assez surprenant. La première qu'on a trouvée, elle date d'octobre 64, et là, il nous décrit carrément l'emploi du temps d'un jeune militaire. Donc ça commence à 5h du matin par le lever, le nettoyage des armes, etc., et puis ça se termine jusqu'à 17h avec les dernières manœuvres. Et on trouve, entre-temps, de 6h à 7h du matin, une corvée qui sans doute était celle des jeunes soldats, parce qu'elle apparaît au début des lettres, mais après on ne la voit plus, et que lui, il appelle le plumage des pommes de terre, la célèbre corvée de patates. Elle existait déjà. Et donc ensuite, après, c'est essentiellement des exercices militaires, qui d'ailleurs, il précise, dans le régiment où il était, c'était l'artillerie, était sans doute un des plus compliqués parce qu'il fallait qu'ils apprennent à manier le sabre, à manier ce qu'il appelle le mousqueton, et aussi les canons. Et ça n'avait pas l'air évident. Et dans ces lettres, on voit après, il y a des thèmes vraiment récurrents, comme le thème des compliments. Et c'est valable aussi pour les lettres qu'il a reçues. Les gens se demandent ce qu'on passe leurs compliments à la famille, aux amis. Donc en fait, ça doit être une espèce de bonjour et d'attention particulière pour les gens auxquels on était attaché. Ce jeune homme était de Sainte-Afrique et puis il se retrouve envoyé à Toulouse. Lui, il avait de la chance parce qu'apparemment, il avait un cousin là-bas. Mais on voit tout le temps le souci d'avoir des gens du pays avec eux. Et lui, il a eu de la chance parce qu'il s'est retrouvé dans un régiment où il y avait un autre soldat de Bournac. Et pour rassurer sa famille, il dit qu'ils sont toujours ensemble, ils sont comme frères. Et ça, on le voit tout au long de son service et même après quand il est mobilisé pour la guerre de 70. Où vraiment, c'est important d'avoir des gens du pays, quoi. Ça permet sans doute de garder un lien. Et puis c'est aussi, on le voit plusieurs fois, c'est aussi un moyen pour eux de se donner des nouvelles entre familles, à défaut de pouvoir écrire directement à sa famille, on en fait passer par le copain, quoi. Parce qu'à cette époque-là, malheureusement, il n'y avait ni téléphone, ni internet, ni donc... Donc les centaines de kilomètres avec Toulouse, ça devait déjà faire pas mal, quoi. Ensuite, mais là, c'est peut-être plus lié à lui, à sa personne et à sa famille. Il y a aussi l'obsession de... Oui, c'est quasiment une obsession de la religion et de la messe. Tout le temps, il faut qu'il précise qu'il a pu aller à la messe ou alors qu'il n'a pas pu, mais qu'il a trouvé un palliatif. Ensuite, il y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est là, c'est pareil, c'est des deux côtés, tant du soldat que de la famille, c'est l'inquiétude face aux maladies. Mais même parfois, de simples rhumes, en fait, ils y font très attention, parce que ça pouvait sans doute vite dégénérer. Et donc, tout le temps, il faut qu'il précise que oui, ils sont en bonne santé, ou non, ça ne va pas trop, mais bon, ça ira. Il y a quelques fois aussi où le soldat précise que dans sa caserne, il y a des gens qui sont malades et morts du choléra. Il y a même la petite vérole encore. Enfin, on voit que ça avait l'air d'être une vie assez difficile. Notamment, par exemple, en 1870, avec la guerre donc, contre la Prusse, puis la Commune, il est envoyé à travers la France. Et du coup, il décrit les conditions dans lesquelles ils vivent. Et lui, il dit à un moment qu'il a attrapé un rhume ou quelque chose, parce qu'il a dormi dans une grange, mais en plein courant d'air. Et malgré tout, il dit à ses parents, il précise que lui, il a de la chance d'avoir eu une grange, parce qu'il y en a pas mal qui devaient dormir dehors. Et on n'est pas en plein été à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi une autre préoccupation, c'est le besoin d'argent, parce que la solde ne devait pas être terrible. Et puis parce qu'il y avait aussi pas mal de vols, d'après ce qu'il dit. Et donc, il a besoin d'argent assez régulièrement. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres études qui ont été menées un peu partout. C'est surtout pour des gens, a priori, de la campagne et qui ne sont pas forcément des classes les plus aisées. Il faut trouver de l'argent, quoi. Ce jeune homme, en fait, donc, il a fait son service militaire. Mais il a joué assez souvent de malchance parce qu'il y a toujours eu plusieurs événements qui sont arrivés juste au moment où il devait finir. Ce qui fait que si on en croit les dates comme ça de la correspondance, en 1870, il était encore soldat, donc ça faisait quand même 6 ans, à moins qu'il soit rentré au pays puis qu'il ait été remobilisé. Ce qui, pour sa famille, posait des problèmes parce qu'en fait, il aidait ses parents qui c'était des meuniers. Et la famille avait pas mal de soucis. Soit parce qu'ils n'avaient pas les bons ouvriers, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir des ouvriers. Donc c'est une préoccupation, ça, qu'on retrouve assez souvent dans leurs lettres et qui mériterait largement une étude un peu plus approfondie, un peu plus longue. Peut-être que certains auditeurs se sentiront l'envie d'essayer, parce que je pense qu'on pourrait découvrir pas mal d'autres choses et avoir quelques surprises et surtout faire une étude franchement intéressante sur à la fois le monde militaire mais aussi la séparation familiale et la vie parce que c'est la vie transparaît beaucoup dans ces lettres là en fait.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
I like it like that.
I Like It Like That de Debbie Bond, un CD de la semaine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique. Il est l'heure de se quitter. Dans cette émission, vous avez pu entendre une chemise à rayures spéciale Habitat Léger avec Pascal Longbard, militant local et membre d'un groupe de travail sur les questions de l'habitat léger, et Raphaël Jourjon, salarié de l'association Relais et chargé de la mission Habitat. Pour en savoir plus, vous avez rendez-vous donc jeudi prochain pour une journée spéciale là-dessus avec une plénière le matin et les ateliers l'après-midi. Inscrivez-vous donc dès maintenant à l'association Relais à Sainte-Afrique. Puis, comme tous les mercredis, notre chronique du jour est E3-246, la chronique de la Maison de la Mémoire. Florian Boulet nous a parlé des lettres de soldats. Côté musique, vos oreilles ont découvert ou redécouvert The Road de notre stagiaire Jean et de son ami René. Dans les CD de la semaine, il y avait Soul Nurse de Rod Anton et The Ligerian et I Like It Like That de Debbie Bond. Bonne soirée sur Radio Sainte-Afrique. Nous, demain, c'est la place au Tonton Flingueur. On se retrouve donc vendredi à 10h10 ou à 18h en rediffusion. Bonne journée à toutes et à tous.